Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque samedi, nous plongeons dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans toute une vie. C'est l'une des couturières les plus importantes de l'histoire de la mode de l'entre-deux-guerres. Avec ses longs drapés coupés en biais, elle a révolutionné la couture et métamorphosé la silhouette féminine. Elle est une référence pour les couturiers les plus novateurs, tels Balenciaga, Christian Dior, Azzedine Alaïa et Issey Miyake. Juliette Hilaire et Marie Placé signent pour vous aujourd'hui Madeleine Vionnet, 1876-1975, toute une vie de mousseline, satin, velours et crêpe de soie.
Les grands de la couture étaient alors Poiret, Wort, Paquin, Marscal et Armand, Jeanne Lanvin, Schiaparelli, Lucien Lelong, Lina Ricci, Maggie Rouff, Chanel. C'était la grande époque de Jean Patou et le triomphe du flou chez Madeleine Vionnet, qui avait été première chez Doucet avant d'ouvrir sa propre maison.
Elle a toujours aimé travailler les tissus très souples, crêpes de Chine, crêpes Georgette.
Et c'est encore ceux-là que je préfère, le crêpe romain, le crêpe Georgette, la mousseline, enfin des tissus souples.
Est-ce que vous avez habillé des actrices qui ont eu leur heure de célébrité?
J'avais la pauvre Sorel, mais pas chez... Là aussi, je l'ai eue chez Doucet et elle m'a suivie chez moi. Et elle portait bien les robes de style. Puis elle avait un culot monstre. Oh, j'en ai jamais vu autant. À personne.
Elle avait une vision de la beauté et il voulait habiller cette vision de beauté. Sur les robes de Madame Vionnet, on ne pouvait rien porter. J'ai demandé une fois à une dame, mais comment vous mettiez ces robes qui moulaient les corps en biais comme ça? Comment on faisait pour en dessous? Elle dit rien. Shaved and powdered. Ça veut dire rasé, poudré. C'est tout ce qu'on pouvait faire.
C'est vrai que quand, par exemple, si je me reporte à mes débuts, quand tout à coup je m'intéressais à Vionnet, j'avais l'impression que c'était rare que quelqu'un s'intéresse à Vionnet. C'était presque oublié ou connu des historiens.
I myself thought that I invented many adventures or many inventions, but after studying about Vionnet, I felt like I was searching for her shadow.
Madeleine Vionnet, toute une vie de haute couture. Peu connue du grand public, Madeleine Vionnet est pourtant l'une des figures les plus importantes de l'histoire de la mode. Contrainte de quitter l'école à 12 ans pour apprendre le métier de couturière, très vite, chez cette femme exceptionnelle, la main pense. Chacune de ses robes stupéfiantes est une alliance de géométrie et de fluidité, de classicisme et de modernité. Des chefs-d'œuvre intemporels où la puissance de la coupe explore à l'infini les possibilités du biais. Quand cet architecte de la mode ouvre sa maison de couture en 1912, c'est pour affirmer ses idées et sa ligne. Car en révolutionnant la mode, Madeleine Vionnet révolutionne aussi la vie des femmes. Dotée d'un caractère fort et indépendant, pionnière dans bien des domaines, elle retire notamment le corset et s'engage pour le droit de ses ouvrières. Passionnée par la Grèce antique, chacune de ses créations sera portée par un même désir, celui de créer une mode loin des effets de mode, afin de tirer l'éternel de l'éphémère.
Alors Madeleine Vionnet est née en juin 1876 dans le Loiret. Son père était gendarme à cheval et ses parents divorcent, se séparent quand elle a 3 ans. Et finalement, elle est confiée à son père, ce qui est assez particulier. À l'époque.
Lydia Kemitsis, historienne de la mode.
Il s'avère qu'elle est, c'est quelqu'un qui est assez brillant. On sait qu'elle a eu son certificat d'études à 10 ans et qu'elle a été distinguée un peu par la maîtresse qui voulait lui obtenir une bourse pour pouvoir poursuivre ses études. Son père était assez d'accord sur la question, mais il se trouve qu'une relation de son père, qui était couturière, cherchait une apprentie. Et donc elle a persuadé le père de lui confier la petite Madeleine, qui rentre en apprentissage à 11 ans et demi, et donc qui est éloignée comme ça de ce rêve de faire des études. Donc elle rentre en apprentissage et il s'avère qu'elle comprend tout de suite, elle doit être assez vite séduite par ce travail de la main. Et donc cette contrainte de faire l'apprentissage, elle arrive à le transformer en quelque chose de positif. Et donc ça fabrique le personnage de Madeleine Vionnet, quelqu'un qui a une capacité de transformer positivement les contraintes et de se réaliser dans la contrainte.
Les mains des petites femmes sont admirables et toutes semblables à des oiseaux.
À 18 ans, elle se marie. Très vite, elle donne naissance à une petite fille, Jeanne Yvonne, qui meurt à 8 mois, 9 mois à peine. Et donc le mariage ne résiste pas à ce drame. Elle est mariée à 18 ans, divorcée à 21 et ayant perdu déjà un enfant. Elle va en Angleterre pour apprendre l'anglais, mais sans doute aussi pour voir autre chose, pour apprendre autre chose. Et elle trouve à s'employer en tant que lingère dans une maison de santé. Elle se forme l'œil, elle se forme aussi la main dans des travaux qui sont délicats. Le travail de lingerie, ça la confronte à des matériaux très, très nobles, très fins, des mousselines, peut-être des dentelles, des entre-deux. Donc déjà, un monde d'un certain raffinement qu'elle va exploiter beaucoup plus tard quand elle aura ouvert sa propre maison de couture. Et puis elle va aussi, surtout, travailler dans une maison de couture anglaise, Kate Reilly, qui va la confronter à le travail de couture véritablement, de fournisseur de la haute société anglaise. Et au bout de 5 ans de perfectionnement, quasiment le début de sa carrière, elle reviendra à Paris pour travailler chez les Sœurs Callot.
Les mères femmes sont des bijoux dont je suis fou.
Vionnet apprend véritablement là l'excellence. Elle dira d'ailleurs que grâce à Madame Germer, chez les Sœurs Callot, elle a appris à faire des Rolls-Royce. Et elle n'aurait pas eu ce passage, elle aurait fait des Ford.
Il n'est point de fondateur d'école qui n'ait été lui-même à ses débuts à une certaine école.
Interview dans Marie-Claire, 1937.
Pour moi, ce fut celle de Madame Gerber, l'école de la magnificence. En ce qui me concerne, j'ai largement simplifié, mais ce passage m'a empêché de faire des choses pauvres. Ma formule personnelle est celle de la robe qui est belle, parce que seulement bien coupée. Si l'on peut dire qu'il existe actuellement une école Vionnet, c'est surtout parce que je me suis montré une ennemie de la mode. Il y a dans les caprices saisonniers, fugitifs, un élément superficiel, instable, qui choque mon sens de la beauté. Le mot « mode », pour moi, ne signifie rien que des idées d'ordre général, universelles, participant du caractère immuable et éternel de la pure beauté.
Alors, chez les Sœurs Callot, elle y reste 3 ans. Et en 1906, elle cède à la proposition de Jacques Doucet, autre grande maison de couture de la Belle Époque, qui lui offre d'être modéliste, de pouvoir créer des modèles pour rajeunir la maison. Alors chez Jacques Doucet, Madeleine Vionnet va, si on peut dire, se lâcher et donner libre cours à sa vision d'un vêtement plus libre, plus respectueux de la femme. Elle doit demander à ce qu'on porte plus ni gaine ni corset, à une époque où c'est une donnée fondamentale de la fabrication de la silhouette féminine. Et ce sont des choses qui vont être très mal perçues. Certaines vendeuses refusent carrément de montrer les modèles qu'elles créent. Donc elle décide de créer sa maison de couture au premier étage du 222 rue de Rivoli en 1912. Elle a 36 ans.
Imaginez notre Paris au printemps. les terrasses des grands boulevards regorgeant de jolies femmes et de leurs amoureux cavaliers. Les trottoirs grouillent de midinettes et de parigots marchant allègrement dans la direction des Champs-Élysées, où les flonflons de l'âme parisienne sortent les ambassadeurs comme pour électriser la capitale. 1900.
À la fin du 19e, il y a une très forte réaction féminine, qui est une réaction collective, qui est une réaction militante.
Georges Vigarello, historien.
Qui entraîne un certain nombre de manifestations dans la presse, dans l'opinion publique, qui tente de convaincre à la fois les médecins, les journalistes, les hommes politiques. Il y a des déclarations extrêmement fortes qui croisent des États. Vous avez des manifestations en Allemagne, en Angleterre, en France. Donc, vous voyez, il y a, je pense, et c'est extrêmement important, il y a de la part du monde féminin, disons les choses comme ça, le sentiment que le corset est devenu non plus seulement un élément d'élégance, qui peut d'ailleurs être contesté, mais un élément de contrainte. Et aboutissons à deux choses. Un élément de souffrance, et deux, un élément, un outil, un instrument qui défavorise le travail, qui empêche le fait de pouvoir avoir un corps disponible pour entrer dans la sphère professionnelle, voire même dans la sphère publique. Mais c'est une question beaucoup plus importante qu'on ne le croit, parce que ça renvoie vraiment au fait que, dans cette contestation de la contrainte, il y a l'entrée des femmes dans l'espace public. Donc à partir de là, bien sûr, les couturiers et les couturières ont réagi. Donc dans ce cas, on trouve évidemment Madeleine Vionnet. Je pense que c'est la première. On a tendance à l'oublier et à dire que c'est Poiret. Et on trouve aussi Poiret.
Je n'ai jamais pu supporter les corsets moi-même. Pourquoi les aurais-je imposés aux autres femmes? Le corset, c'est une chose orthopédique.
Interview avec Bruce Chatwin en mars 1973.
Monsieur Poiret n'est pas un couturier, c'est un costumier. Très bien pour le théâtre.
Paul Poiret a quand même gardé des corsets sous ses robes.
Sophie Tircelin, historienne de la mode.
Il suffit de voir quelques illustrations ou quelques robes, c'est tout à fait impossible de supprimer complètement le corset. En plus, à cette époque, on avait des femmes qui pouvaient avoir un certain âge et qui portaient le corset depuis leur adolescence. Physiquement, c'était insupportable de ne pas porter le corset, il fallait y aller progressivement. Mais effectivement, Madeleine Vionnet a participé, en plus de la libération des tissus, à la libération des corps. Par exemple, lorsqu'elle travaille chez Jacques Doucet, elle fait aussi défiler devant les clientes ses mannequins pieds nus ou en sandales grecques. Voilà, elle veut libérer jusqu'au moindre doigt de pied, finalement.
C'est une grande admiratrice d'Isadora Duncan. Or, qu'est-ce qu'invente Isadora Duncan? Elle invente une danse totalement libre. Elle invente une danse qui invente, en quelque sorte, ses propres mouvements à partir de l'intérieur même du corps. Non pas des mouvements qui sont imposés de l'extérieur comme des formes qui viennent artificiellement, en quelque sorte, dessiner la chorégraphie, mais une chorégraphie qui s'invente à partir du désir, à partir de l'explosion intime, si vous voulez. Ça, c'est une immense originalité d'Isadora Duncan. Et effectivement, Madame Vianney était admiratrice de cette danseuse et ça l'est sans doute inspirée. J'ajoute que Isadora Duncan, inventée par ailleurs, comme d'ailleurs Loïc Fuller, inventé par ailleurs des voiles, des types de ports de vêtements qui épousent les formes et qui, dans le mouvement, accentuent en quelque sorte le dessin des formes, ce qui est absolument fondamental. C'est une victoire considérable féminine. Pourquoi? Parce qu'on voit à ce moment-là que le squelette, le dessin du corps, la ligne du corps l'emporte sur l'habit. Or, la tradition, c'est l'habit qui l'emporte sur la forme. Ça, on l'oublie, vous voyez. C'est une immense rupture de la fin du 19e siècle. C'est l'anatomie qui l'emporte, c'est-à-dire finalement le naturel, le mouvement, la dynamique, la disponibilité de soi.
C'est une femme qui va jouer avec les tissus, avec l'air, avec les forces, avec les poids des étoffes. Et elle va se servir de ça pour créer un mouvement qui est absolument libre. Et en ça, elle se rapproche énormément de Madeleine Vionnet. Puisque Madeleine Vionnet, son credo, c'est la simplicité, c'est la pureté, c'est la liberté de mouvement, mais la liberté de mouvement de la femme, oui, mais surtout la liberté de mouvement du tissu. Elle voue une passion immodérée au tissu, à la façon dont il se comporte. Elle passe des heures à l'observer. C'est une technicienne avant tout. Et je pense que ce qu'elle admire chez Isadora Duncan, c'est cette liberté, c'est la vie qu'elle donne à l'étoffe.
C'est Isadora Duncan, mais elle a passé à travers le temps pour nous apporter le souffle de la grâce.
Alors Madeleine Vionnet a 36 ans quand elle ouvre sa maison de couture, donc je pense qu'elle a déjà suffisamment d'expérience.
Sophie Lemayeux, historienne de la mode.
Elle est quand même apprentie depuis ses 11 ans, elle est passée par plusieurs maisons, par deux pays, par de très grandes maisons de couture, donc je crois qu'il est temps pour elle de réellement s'installer. Donc ça demande de trouver des fonds et on est à une époque où les grands magasins et les fondateurs de grands magasins vont investir beaucoup dans les maisons de couture. Donc c'est notamment la petite fille du fondateur du bazar de l'Hôtel de Ville qui va l'aider à financer son premier projet pour ouvrir sa maison au 222 rue de Rivoli. Ça commence plutôt bien pour Madeleine Vionnet, mais on est dans une petite structure au départ. Elle est partie avec Madame Léonie, qui est une vendeuse de chez Jacques Doucet, et qui l'a suivie. Et on est sur quelques couturières. Mais ce qui est bien, c'est que chez Calosseur, comme chez Jacques Doucet, et surtout chez Jacques Doucet, Madeleine Vionnet a rencontré des personnalités, des femmes célèbres qui vont la suivre et qui vont vouloir continuer à porter ses vêtements. Donc, c'est le cas par exemple de Cécile Sorel, qui était comédienne à la Comédie Française. Alors évidemment, la maison ouvre en 1912 et en 1914, c'est la Première Guerre mondiale. Et donc Madeleine Vionnet se voit dans l'obligation de fermer officiellement sa maison. Ça n'empêche pas que certaines activités continuent, qu'elle autorise ses premières d'atelier à utiliser les locaux du 222 rue de Rivoli pour fabriquer des robes pour les clientes qui sont déjà acquises à la maison.
Et elle part à Rome, donc là elle s'imprègne totalement de l'antiquité qui l'entoure.
Sophie Tircelin.
Des bâtiments, de la sculpture, de la fresque romaine aussi. Et donc c'est très sensiblement visible dans son travail d'après-guerre. Avant la Première Guerre mondiale, elle a déjà un goût très prononcé pour l'antiquité. Geneviève Dufy, qui est une de ses premières d'atelier, une de ses assistantes, dit déjà que sur son temps libre, Madeleine Vionnet passe son temps au Louvre. Donc au département des sculptures antiques romaines. Donc on peut supposer, malheureusement il y a très peu de sources sur ce sujet, mais on peut supposer que Madeleine Vionnet ait voulu tout simplement profiter de cette période qui était difficile pour aller faire le plein d'inspiration, un grand plein d'inspiration et de beauté en fait.
Quand sa maison rouvre après la Première Guerre mondiale, on peut dire que c'est là que commence vraiment l'affaire, même si ça fonctionnait bien déjà auparavant. Qui plus est, dans les années 20, c'est un peu la fin de Paul Poiret, donc cette figure masculine-là est sur le déclin.
Entre 1918 et 1922, Vionnet vraiment donne la mesure de son talent. Il y a déjà tous les éléments qui vont constituer son style, qui sont à l'œuvre. Ce refus des contraintes, la filiation revendiquée très forte avec l'Antiquité grecque, qui fonde véritablement son style. À cette époque-là, elle crée aussi son identité visuelle, c'est-à-dire qu'elle va demander à Tayat, un artiste italien proche du mouvement futuriste, de collaborer avec elle. Donc il va dessiner le logotype de la maison Vionnet, qui est une chose tout à fait extraordinaire, puisque déjà ce logotype met les bases de l'esprit Vionnet.
Le logo de la maison Vionnet, il n'a pas bougé pendant toutes les années d'existence de la maison Vionnet. Il s'agit simplement d'un personnage qui est indéfinissable. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. C'est un personnage chauve, comme certaines des sculptures futuristes italiennes. Donc là, on voit le rapport avec Ernesto Tayat, qui est debout sur une colonne ionique, donc une colonne grecque, qui porte devant elle, ouvert entre ses deux bras, une grande étoffe avec un demi-cercle qui intègre en fait un plissé qui se rapproche extrêmement fidèlement du relief Ludovisi, donc d'un relief très connu qui est conservé à la Villa Ludovisi de Rome et qui représente la naissance de Vénus. On a Vénus avec ce drapé qui couvre en fait son corps. Là, c'est exactement la même chose. Et on a quand même un design qui est très futuriste, qui correspond tout à fait au design italien des années 20, avec ses plages de couleurs vertes, oranges, qui sont dans le dessin futuriste. Mais l'esprit est antique, et voilà, on a le motif du rond, on a le motif de la colonne, on a une très grande simplicité dans ce motif.
«
Je me suis appliquée, comme pour la femme, à libérer le tissu des contraintes qu'on leur imposait. Elle et lui me semblaient des victimes calomniées. J'ai prouvé qu'un tissu qui tombait librement sur un corps, sans cuirasse, était le spectacle harmonieux par excellence. J'ai cherché à donner au tissu un équilibre tel que le mouvement ne déplace pas ses lignes, mais les magnifie encore.
Madeleine Vionnet considère effectivement le vêtement grec comme un idéal, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour l'idée qu'il véhicule. Le vêtement grec, c'est l'idéal de la société, dans l'imaginaire commun, bien sûr, mais c'est un idéal de société, de démocratie, de paix, de liberté. C'est quelque chose qui véhicule des idées d'éternité, en fait. Et puis, elle est très admirative de la technique du vêtement grec, qui est vraiment une science, puisque en Grèce, le vêtement n'est pas cousu, jamais. C'est simplement un lait de tissu, donc par exemple pour ce qu'on appelle le chiton ou l'imatium, qui sont des vêtements grecs, une tunique et un manteau. Il s'agit de simples rectangles de tissu, donc de lin, de soie ou de laine, qui sont accrochés avec des fibules sur les épaules, et puis qui sont drapés, ceinturés d'une façon savante au point de pouvoir créer des manches, de pouvoir créer des becs au niveau des hanches pour rendre telle forme plus ou moins ronde ou telle forme acérée. Et ça, c'est quelque chose qui la passionne parce que c'est seulement une affaire de géométrie, en fait. C'est une affaire de trois dimensions et elle est passionnée par ça, par le fait qu'une pièce de tissu qui est plate puisse devenir une architecture à part entière.
Les garnitures, je ne les ai jamais recherchées, mais je m'en sers cependant à condition qu'elles ne fassent que seconder l'architecture de la robe et qu'elles constituent le prolongement et comme l'exaltation de l'ensemble. Pour les formes générales, je n'ai pas de préférence préconçue. Je trouve que l'ampleur dissimule, accompagne, mais sur des corps parfaits, le strict moulage de plis harmonieux est d'une beauté indicible. Pour en revenir à mon école, en voilà les quatre bases. Proportion, mouvement, équilibre, vérité.
Sa marque de fabrique, c'est la simplicité, c'est une grande immuabilité dans le vêtement. C'est des vêtements qu'on peut porter encore aujourd'hui sans problème. Il y a une complexité de la coupe qui sert la pureté en fait, de la forme. Ce qui est assez impressionnant, il y a un travail immense pour un résultat modeste, très pur. En fait, elle arrive après une mode qui est très extravagante, très vibrante, après Paul Poiret. On arrive après des teintes violettes, des oranges très violents, des verts complètement fous. Et elle s'adresse à une femme qui est peut-être un peu plus discrète, qui est plus sensible, plus subtile, qui souhaite montrer son intelligence et sa beauté intérieure par quelque chose de plus... Voilà, de plus doux, de plus subtil, tout simplement, de quelque chose de plus intelligemment construit.
Avant tout, la pureté des teintes unies. Le noir, le blanc, et puis de beaux tons francs, sincères. Des bleus et des verts qui parent les yeux, des rouges qui rappellent les lèvres, mais pas de coloris mal définis. Ce qu'il faut, voyez-vous, c'est élever la couture à une sorte d'apostolat. Puisqu'elle est française par excellence, en faire une parfaite expression du génie français, tout de mesure, de goût, de qualité. Puisqu'elle est consacrée à la femme, magnifier la femme et composer avec chacun de ses vêtements une sorte de poème achevé.
La robe aux petits chevaux, elle est extrêmement emblématique de la création de Madeleine Vionnet par le motif qui est imprimé, qui est dessiné, qui est brodé même sur cette robe, qui est un motif de frise de chevaux, qui est une copie quasi conforme du motif d'une amphore qui est conservée au musée du Louvre et qui montre une course de chevaux, en fait. Et ce qui est encore plus parlant, c'est que le fond de cette robe est rouge, rouge terre de Sienne. Les broderies sont noires, exactement comme une amphore grecque ou une amphore romaine, où on aurait une figure noire, en fait, comme les amphores à figure noire. Donc c'est le modèle 1113. 1113, d'ailleurs, ça commence par 1000 parce que les robes qui commencent par 1-1 sont des robes de soirée. Donc voilà, la robe aux petits chevaux, c'est une robe de soirée. Elle fait partie de la collection hiver 1921.
J'ai été très heureux de prêter mon concours à cette manifestation, de façon à ce qu'on puisse toujours penser que Paris maintient son prestige et que nous maintenons ainsi la prédominance du goût français, ce goût qui est indispensable pour créer de l'ambiance dans le monde. Certes, nous avons vu des choses ravissantes, de très jolies robes, de très jolies créations, et nous pouvons dire que c'est la tradition qui s'est adaptée au temps présent, qui s'est modernisée, qui marche de l'avant, mais qui néanmoins s'inspire toujours du passé.
Rare chose qu'elle ait dite, parce qu'elle n'a pas accordé beaucoup d'interviews, mais chaque mot a son sens. Elle disait « Quand une femme sourit, sa robe doit sourire avec elle ». Le succès est suisse, c'est-à-dire qu'il y a déjà une reconnaissance de cet art absolu. On le lit à longueur de chroniques dans les revues de mode de l'époque. La clientèle, évidemment, la clientèle est là, française et aussi internationale. L'affaire s'agrandit et il y a nécessité aussi d'agrandir l'espace pour loger les collaborateurs, etc. Donc, en 1922, la décision est prise, donc il y a un déménagement au 50 avenue Montaigne, un quartier qui n'est pas encore très pratiqué par la mode, c'est pas le cas aujourd'hui évidemment, et elle s'installe dans un bel hôtel du comte de la Riboisière, qui va être entièrement réaménagé. Physiquement, il y a l'hôtel particulier, déconstruit à la fin du 19e siècle, qui est redécoré par notamment Georges Defeur et Boris Lacroix. C'est là que se trouvent les studios, c'est là que se trouve le fameux salon, qui est le centre névralgique de toute maison de couture. C'est là où se font les présentations des collections. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les collections sont présentées quotidiennement, à heure fixe. Tous les jours, il y a, chez Vionnet, ça fluctue, mais il y a entre 10 et 25 mannequins à demeure qui portent les vêtements pour la présenter à la clientèle à heure fixe, plus à des heures particulières pour certaines clientes. Donc il y a ce salon qui a une caractéristique assez particulière, c'est qu'il est décoré par des sortes de fresques. Quand on regarde rapidement, on a l'impression qu'il s'agit de fresques antiques, des processions comme ça de femmes. Et puis, quand on détaille un peu plus précisément, on voit que ces figures féminines sont habillées par des vrais modèles créés par Madeleine Vionnet.
Quand on regarde les photos d'époque, on a une impression... Alors, par exemple, je vais vous parler du Grand Salon, l'endroit où les mannequins défilaient, où on a tout un groupe de chaises tout autour d'un immense tapis pour permettre aux clientes de s'asseoir. Dans cette pièce, tout est immense. Et ce qui est étonnant, c'est que à la fois on a un modernisme qui est impressionnant, on a du béton armé, en fait on est dans une architecture moderniste tout simplement, on a des très grands volumes, on a des fenêtres très marquées, pas du tout ces grandes baies vitrées allongées qu'on peut voir dans l'architecture haussmannienne. Et à côté de ça, on a des motifs qui sont antiques. On a des pilastres, on a des cannelures, on a des arcades qui sont très douces. Et même le mobilier, même s'il est moderne et design, comme on pourrait le dire aujourd'hui, sont des fauteuils bas en bois. Mais ils reprennent la forme des chaises curules romaines, très basses avec un croisillon sous l'assise. Donc à partir de là, c'est tout Vionnet finalement. C'est un mélange de modernité, presque même de futurisme et... cette idée d'antique qui perdure pour toujours.
Le 50 avenue Montaigne, je pense que c'est quelque chose qui doit paraître assez extraordinaire de l'extérieur et quand on y entre. Donc avec des enfilades de salons qui sont très bien programmées, une pour la lingerie, une pour la fourrure, des salons d'essayage, qui montrent un peu la richesse des robes qui vont être essayées dans cet espace. Et c'est ensuite en traversant la cour qu'on arrive sur ce qu'on appelle l'usine et qui va être les ateliers où œuvrent les couturières pour fabriquer toutes ces merveilles.
Je vais vous raconter comment je suis arrivée chez Madeleine Vionnet au 50 avenue Montaigne en 1930, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans.
Denise Maillet, première main chez Madeleine Vionnet.
Lorsque je suis arrivée dans les ateliers, partout, je trouvais tout le monde beau, tout le monde joli, tout le monde sympathique. Et mon Dieu, j'ai gardé cette impression pendant tout mon séjour chez Madeleine Vionnet.
J'ai été employée comme apprentie, mais je n'y suis restée que 6 mois. Ensuite, je suis passée petite main et je suis sortie première main 8 ans après. La maison Vionnet avait cette spécialité que nous travaillions dans le biais et bien souvent, il fallait développer le patron pour savoir exactement comment s'en sortir, comment tailler la robe. J'ai fait toute ma carrière de couturière chez Madeleine Vionnet dans l'atelier de Madame Lucienne. Madame Lucienne était très rigoureuse et elle est très, très exigeante sur le travail, bien sûr. Était aussi un petit peu sévère, parce que quelquefois, lorsqu'on parlait un peu trop, nous disions, petite dame, ne n'oubliez pas que les paroles n'ont pas de couleur. J'aimerais mieux vous entendre chanter. Surtout lorsque nous étions, par exemple, 6 ou 7 autour d'un ourlet d'une robe du soir, par exemple, nous bavardions et nous disions, mais chantez plutôt.
Il y a le bâtiment historique, l'hôtel des Comtes de la Riboisière, et puis elle fait construire, dans l'arrière-cour, un immeuble moderne, en verre et en acier, de 8 étages, C'est un immeuble, donc cet immeuble neuf, tout à fait moderne pour l'époque, abrite les ateliers par spécialité. Il y a l'atelier de tailleur, flou, fourrure, colifichet, enfin bon, toutes sortes de choses, lingerie. Il y a jusqu'à 28 ateliers différents.
Madame Violet était à l'avant-garde de tout. Nous avions de grands ateliers, très aérés. Nous avions des chaises, alors que dans certains ateliers, c'était des tabourets. Nous avions des fers électriques. Par exemple, il y avait un service médical. Il y avait, un réfectoire. Il y avait tout ce qu'on pouvait espérer pour travailler dans une atmosphère de confort, si on peut dire.
C'était des ateliers qui étaient réputés pour leur modernité et pour leurs conditions, les conditions confortables de travail. Les ouvrières travaillent entre 12 et 13 heures par jour, donc ça fait une différence d'être assise sur une chaise ou un tabouret. Et puis, il y a aussi d'autres facilités. Et Vionnet a été en ça tout à fait exceptionnel, parce que non seulement c'était une grande couturière, une grande artiste, mais une grande patronne, qui avait une conscience sociale très forte. Donc, elle exige d'intégrer dans sa maison des services tels que dentiste, donc il y a un cabinet dentaire, consultation médicale gratuite pour les employés, leurs ascendants et leurs enfants. Il y a une cantine gratuite où on ne mange pas que du riz tous les jours, comme disaient certaines ouvrières qui ont pu faire d'autres maisons de couture. Il y a des congés payés, on est avant 1936. Il y a même des congés maladie qui sont payés, ou des congés maternité qui sont payés, aussi avant 1936, donc des choses tout à fait exceptionnelles.
Lors de la grève de 1936, on aurait pu ne pas faire grève, parce que nous avions déjà tous les avantages qui étaient demandés par cette grève. Mais Madame Vionnet a tenu à ce que nous soyons solidaires, afin que les autres aient aussi ce que nous avions. Elle nous a donc prêté le réfectoire, et le soir, mon Dieu, pour passer le temps, eh bien, après dîner, nous avons chanté. Comme j'étais toute menue, toute jeune, eh bien, on m'a mis sur la table et j'ai chanté Chichi. Alors de quoi, Jacques Griffe m'a toujours depuis appelé Chichi. Lorsqu'on se rencontrait, bonjour Jacques, bonjour Chichi.
Oh Catalina, t'avais la chichi, écoute l'amour t'appelle Chichi. Pourquoi dire non maintenant?
Il faut aussi dire qu'il y avait une école intégrée pour les apprentis à sa maison. Alors, il y avait une obligation depuis 1919 légale de former les apprentis 3 heures par semaine environ sur leurs heures de travail. Ce que fait Madeleine Vionnet avec sa propre école intégrée, où certes elle les forme à toutes les nouvelles techniques de couture possibles, mais aussi elle va plus loin puisqu'elle elle fait donner des cours de grammaire, des cours d'arithmétique à ces jeunes couturières, sans doute aussi dans une volonté de leur propre accomplissement et qu'elles puissent aussi voir un peu plus loin que simplement la couture. Elle va d'ailleurs à ce propos parler du fait qu'elle forme des jeunes filles pour élever leur valeur morale. Et c'est vrai que les couturières dans la première moitié du XXe siècle, dans le début du XXe siècle, on parle souvent des midinettes et donc de ces couturières qui ont une réputation de mœurs assez libre. Et elle, visiblement, elle tient à la bonne valeur morale de ses propres couturières. C'est assez amusant.
Plus tard, quand tu seras vieille, tch, tch, tu diras baissant l'oreille. Tch, tch,
on la voyait très peu. Alors on ne pouvait pas la juger, mais enfin on sentait sa présence. Elle était notre grande patronne. On la vénérait d'ailleurs.
Alors Madeleine Vionnet, contrairement à son exacte contemporaine, Gabrielle Chanel, est quelqu'un d'assez discret. Nous avons quelques portraits d'elle, mais très peu, alors que Gabrielle Chanel, elle s'est fait photographier par les plus grands photographes, c'était une sorte de... Elle était son propre mannequin, sa propre muse, ce qui n'était pas le cas de Vionnet. Vionnet, elle a les photos nous la montrent comme une femme un peu austère, comme une vieille institutrice, elle a les cheveux blancs, même à 36 ans, elle a quelque chose d'un peu distant, d'un peu réservé, d'un peu... pas triste, mais c'est quelqu'un qui a une lumière intérieure, qui a l'air très concentré, très sérieux. Les gens qui l'ont fréquenté, comme y compris sa filleule ou d'autres personnes, disaient que c'était quelqu'un d'assez distant. Elle est plutôt ronde. Et elle est entièrement, dévouée à son travail.
Madeleine Vionnet, c'est quelqu'un qui aimait travailler. Elle aimait le calme de son atelier. Elle s'y réfugiait avec son mannequin en bois qui faisait 60-80 cm de haut. Et elle drapait toute la journée. Elle drapait, elle faisait des essais, elle observait les tissus, elle observait la façon dont ça tombait.
C'est quelqu'un aussi qui n'était pas très mondain. C'est une sorte de d'ermite. Sa vie n'existait que pour son art. Elle disait elle-même qu'elle considérait que son travail était une sorte d'apostolat, un terme très fort. Ça donne la dimension de cette abnégation totale au profit de son art. Ouais. C'est un chercheur qui a en même temps une sensibilité artistique.
Alors, Madeleine Vionnet, son style, je dirais, selon moi, que c'est... un style qui est un équilibre parfait entre un classicisme qui est totalement intemporel et une grande modernité dans la coupe et dans la recherche de techniques. Elle a une citation qui est très intéressante à ce sujet. Elle dit « Il y a des caprices saisonniers fugitifs, un élément superficiel instable qui choque mon sens de la beauté. » Ça, c'est clair.
Le mot « mode », pour moi, ne signifie rien que des idées d'ordre général. Universel, participant du caractère immuable et éternel de la pure beauté.
Ces robes, formellement parlant, sont des robes des années 20, sont des robes des années 30. Ces robes produites dans les années 20 ont un col bateau, n'ont pas de manches pour la plupart. Je parle bien sûr des robes de soirée, ont une taille très peu marquée, une taille basse, une longueur au mollet. Voilà, pour la forme, on est dans les années 20. Mais elle a peur de la mode et de la façon dont un objet peut se démoder. Et en ça, c'est quelqu'un qui est très attaché à la pérennité des formes, à la pérennité d'un visuel, tout simplement.
D'avoir de l'atelier de restauration au sein même de l'institution, ce qui est assez rare en fait.
Emmanuelle Garcin, restauratrice de matériaux textiles au Musée des Arts Décoratifs de Paris.
Vous allez nous montrer une robe de Madeleine Vionnet.
Oui. On est en train de traiter trois pièces qui appartiennent au fond Madeleine Vionnet pour la prochaine exposition qui sera consacrée à la mode à Harper's Bazaar, le magazine de mode à Harper's Bazaar. Donc il y a trois pièces qui vont être présentées, dont cette robe-là. Et ça, c'est une pièce de 1936. Donc on est plutôt sur la fin de la création de Vionnet. Voilà. Et je pense que vous pouvez constater que c'est une pièce qui est difficilement compréhensible comme ça, à première vue. On dit d'ailleurs que souvent les clientes ne comprenaient pas aussi les robes tant qu'elles n'étaient pas enfilées. Elle est constituée à la fois d'une espèce de sorte de tunique avec un décolleté en V devant et une simple bretelle qui s'attache dans le cou et d'une sorte de surtunique ou cape, je ne sais pas très bien comment désigner ça, qui est liée à cette première robe et qui vient envelopper devant. Sur le devant, la espèce de première robe, première tunique est de couleur argentée et ensuite elle fait un jeu avec le pan, la cape qui vient par-dessus et qui, elle, est dorée. Donc il y a un peu un jeu entre ces deux reflets métalliques. Alors là, comme ça vous dit rien. Je vais vous montrer un peu une photo. Ça fait une silhouette un peu colonne. Et vous voyez, le tissu tombe un peu en pli, comme ça, en vague au sol. Vous voyez un peu plus. Donc ça, c'est la partie dorée centrale. Et puis le pan qui se rabat devant, le dos qui est nu. Et vous voyez les plis qui retombent un peu au sol de façon, on dirait, presque un liquide, quoi. Et la mer renforce encore cette impression.
Ah, elle est magnifique, cette robe.
Et elle est portée en général avec une ceinture. Donc on est dans les années 30, c'est des silhouettes très fines, assez près du corps. Et le fait que Vionnet utilise la plupart de ses tissus dans le biais, et quand on utilise le biais sur un tissu qui est proche du corps, il va adopter un petit peu plus facilement les courbes. Voilà. Ça, c'est vraiment ça qu'elle a mis en œuvre dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses pièces.
C'est marrant parce que j'ai été en face de beaucoup de robes de Vionnet, parce qu'un jour j'avais eu l'occasion de pouvoir visiter les archives du musée des arts décoratifs.
Olivier Teskens, styliste.
Elles sont assez grandes, donc on m'avait un peu demandé ce que je voulais voir plus particulièrement, et donc j'étais intrigué par les robes de Vionnet. Donc j'ai tout de suite dit les robes de Vionnet. Je m'attendais à voir un vestiaire de robes pendues sur des cintres, et en fait elles étaient toutes à plat dans des tiroirs. Parce que les matières très fines, souvent brodées, la fragilité des vêtements, le fait que la coupe, souvent en biais, fait qu'il vaut mieux pas les pendre, sinon elles s'étendent, elles s'étirent vers le bas. Et donc j'avais eu l'occasion de pouvoir vraiment les regarder comme ça, de près, en face, un petit peu mystérieuse, parce qu'à plat, elles étaient sans forme, elles étaient juste à plat, on voyait juste un monceau de délicatesse. Voir un vêtement de Vionnet, c'est un peu le voir en trois dimensions plutôt qu'à plat. C'est plutôt savoir tourner autour, comprendre la logique. C'est des vêtements qui ont été conçus en volume, en général, étudiés en volume. Les vérités dans ce vêtement-là ont été trouvées par le travail en volume.
Pourriez d'ailleurs nous expliquer ce que c'est que la coupe en biais ?
Ben, la coupe en biais, c'est simple. Au lieu de... Vous prenez un rouleau de tissu, vous avez le tissu, vous le déroulez, vous avez une grande bande de tissu droite. Et le biais, vous faites une diagonale de 45 degrés, vous allez utiliser le biais comme aplomb vertical. Donc en fait, vous êtes dans cette diagonalité. Et la matière, évidemment, un tissu c'est souple, etc. Mais si vous tirez le tissu dans le sens de son déroulé, il n'est pas stretch, il est droit, c'est la chaîne. Si vous allez dans le biais, vous êtes dans un quadrillage et tout à coup vous pouvez distendre et aller d'un carré à un diagonal. Un diamant, on va dire.
C'est quelque chose que Madeleine Vionnet a créé ?
Je ne pense pas qu'elle l'a créé parce que c'est inhérent à la matière. Ce qu'elle a créé, c'est cette façon de se focaliser sur le biais et d'y trouver des logiques de confection et des logiques de coupe qui peuvent exploiter au mieux cette façon que la matière a de se distendre dans le biais. Même quand vous faites un vêtement en droit fil, si vous voulez évaser une jupe, vous allez sur les coutures de côté, vous allez partir complètement au biais. Donc vous faites du biais. Vous êtes en même temps au milieu devant, vous êtes en droit fil. Elle n'était pas en train de faire des robes en forme de tube, mais elle était dans des robes dont l'attention est portée sur le biais, sur la manière dont elles vont couler, dont elles vont se détendre.
Le biais, en réalité, était déjà utilisé pour faire des doublures de vêtements notamment, donc on l'utilisait très fréquemment, mais uniquement dans l'intérieur des vêtements, alors que là, elle va décider de faire des vêtements sans doublure qui seront faits eux-mêmes en biais, ce qui va rendre un effet beaucoup plus souple, ce qui va permettre un tombé beaucoup plus fluide aussi sur le corps. Madeleine Vionnet va inspirer énormément de couturiers, puisque cette idée de travailler dans le biais va ensuite être reprise très très régulièrement jusqu'à aujourd'hui, et c'est devenu une technique incontournable.
Vionnet a été sans doute pionnière dans plusieurs domaines. Il y a le domaine du style, de la création, du vêtement. Elle est considérée comme, les Anglais disent, the designer's designer, la couturière des couturiers. Parce que ce qu'elle a créé, ce qu'elle a inventé dans la manière d'approcher le vêtement est impossible à surpasser. C'est une sorte d'absolu. Donc, pionnière en matière de création. Elle est pionnière sur un plan, on l'a dit, social, en tant que patronne. Et elle est pionnière sur la défense de la création en tant qu'œuvre, le droit intellectuel et le droit artistique. La copie, c'est un fléau absolu pour elle, donc elle va prendre sa part dans cette lutte pour imposer cette vision que la couture relève d'une œuvre artistique. Il y avait une loi de 1909 qui tentait de protéger les industries saisonnières dont relève la couture, mais qui n'était pas assez performante. Et Vionnet va aller plus loin en créant coup sur coup deux associations, une en 1923 et une autre en 1929, qui va compléter la première, association de protection artistique des industries saisonnières, la PAIS. Et elle va s'illustrer en faisant déjà des procès contre les copieurs et les gagnants, donc ce qui donne une certaine publicité à l'affaire, en créant ces associations. Et surtout, elle va réussir à agréger ses collègues, ses autres couturiers, autour de cette lutte, cette cause, et à systématiser, par exemple, le dépôt des modèles sous forme d'album de copyright, qui est une chose tout à fait exceptionnelle, puisqu'il s'agissait en fait, à chaque saison, de faire photographier la totalité des vêtements produits sur les mannequins maison, les photographier de face, de dos et de profil. Et puis ces photos étaient consignées dans des albums qui étaient déposés, donc avec un numéro de série, une date, ce qui permettait effectivement de prouver la propriété artistique et intellectuelle du modèle. Alors, c'est pas de l'art au sens, il n'a jamais fait la confusion entre l'art d'un Fernand Léger et ce qu'elle faisait, mais elle avait conscience que son apport relevait d'un droit d'auteur. Et d'ailleurs, elle ira jusqu'à le manifester d'une façon extrêmement claire, limpide, dans sa griffe. Les griffes, ce bout de tissu qui est cousu à l'intérieur des vêtements, qui donne le nom et la provenance du modèle, la griffe Vionnet comporte sa signature autographe. Donc il y a déjà la main, ce qu'elle signe comme signent les peintres, leur toile. Il y a le fameux logotype dessiné par Taillat en minuscule. Et puis il y a surtout son empreinte digitale. Donc là, il y a une double affirmation de l'auteur. Sa main et son empreinte qui la singularise complètement.
Tous les grands couturiers citent Vionnet comme un modèle, comme un idéal à atteindre, comme vraiment une technicienne hors pair, comme une théoricienne aussi de la mode et de l'histoire de la mode. Et il y a notamment Yoji Yamamoto qui a une phrase qui est très belle et très humble par rapport au travail de Madeleine Vionnet, c'est une phrase très belle, qui dit « Je suis à la recherche de son ombre ». C'est magnifique, ça montre à quel point Madeleine Vionnet est une figure tellement imposante et tellement presque mystique que les couturiers actuels qui sont d'immenses couturiers se font tout petits devant Madeleine Vionnet. Par contre, effectivement, le grand public a oublié complètement Vionnet. Madeleine Vionnet, c'est devenu un nom inconnu, mais au même titre que les sœurs Callot, au même titre que Madame Paquin, alors que les sœurs Callot faisaient concurrence, par exemple, à Jacques Doucet, sans aucun problème, avaient les mêmes clientes, étaient extrêmement douées. Madame Paquin, on a des innovations de publicité qu'on doit à Madame Paquin, qui envoyait ses modèles vêtus de la même robe aux courses, aux champs de courses de Paris. Voilà, ça c'est quand même ce sont des personnalités qui ont fait avancer les choses,
mais qu'on a oublié. Alors, c'est toute la question des créatrices du début de la première moitié du XXe siècle, finalement. Quelle est la place des femmes dans la création? Là, on peut clairement voir qu'on a arrêté de parler d'elles. Pourtant, Madeleine Vionnet était chevalier de la Légion d'honneur, puis officier de la Légion d'honneur, de son vivant, évidemment. Donc, totalement reconnue aussi par ses pairs. Et puis, voilà, elle a été oubliée. On peut peut-être expliquer ça par sa personnalité très discrète. Par exemple, quand on lui parlait de son talent, elle répondait « mon talent, mais je n'en ai pas », ou alors « peut-être, mais je crois que j'ai uniquement mon travail, en fait ». Elle parlait uniquement de travail et elle s'effaçait complètement, alors que c'est une époque où la figure de l'artiste prend le pas sur la figure de l'artisan. Et des couturiers comme Paul Poiret, par exemple, ont exploité cette figure de l'artiste au maximum. Madeleine Vionnet beaucoup moins, parce que plus modeste, parce que aussi plus indépendante, et elle avait peut-être moins envie d'attirer les regards et les mondanités. Pas de frasques, pas d'amants célèbres, pas de mari richissime. Donc voilà, je pense que c'est surtout son tempérament. Après, évidemment, la disparition des autres femmes créatrices montre bien que l'artiste féminine au début du XXe siècle n'est pas encore reconnue. Et c'est une très bonne chose d'essayer de réhabiliter ça aujourd'hui.
Il y a plusieurs choses, je pense, qui font que Madeleine Vionnet a été oubliée. Donc d'abord le fait qu'elle, de sa discrétion tout simplement, et donc qu'elle communiquait assez peu. Et puis le fait qu'elle ait décidé de fermer entièrement sa maison en 1939. Son contrat pour sa maison prend fin en 1939, mais elle peut tout à fait céder son nom et céder ses droits. Elle peut même éventuellement continuer si elle le veut, mais à ce moment-là, elle se sent trop fatiguée pour continuer elle-même et elle décide de fermer la maison. Donc son nom n'est pas repris. Chanel, en revanche, va reprendre son activité après la Seconde Guerre mondiale. Elle est aussi, Gabrielle Chanel, l'égérie de sa propre marque, ce qui va forcément beaucoup jouer, je pense, parce que on voit sa photo, son image, absolument partout. Mais c'est vrai que voilà, quand Madeleine Vionnet ferme sa maison, elle se sent fatiguée, elle a effectivement la soixantaine, mais en réalité, elle va mourir à 99 ans, donc et on a encore une trentaine d'années qui suivent ensuite pour sa vie, et elle va notamment se mettre à donner des cours, chose qu'elle avait toujours voulu faire auparavant, et dont elle ne s'était pas occupée. Elle va donner des cours de biais, puisque c'est sa spécialité à l'école Saint-Roch. Donc elle va continuer à rester impliquée dans son métier.
Madeleine Vionnet, elle a contracté un deuxième mariage en 1923. C'est un mariage assez curieux, parce que il échappe à ce personnage de Vionnet qui est un peu austère, une vieille institutrice avec ses cheveux blancs. C'est pas la louve Gabrielle Chanel qui aimait les hommes et qui avait des amants et qui en faisait la publicité. C'est pas du tout ça. Et en fait, on apprend ce deuxième mariage avec un jeune homme, beaucoup plus jeune qu'elle, de 18 ans ou de presque 20 ans plus jeune. Ce Dimitri Netsch a été embauché par Vionnet, par Madeleine Vionnet, comme homme de compagnie de son père. Et puis bon, 3 ans plus tard, elle l'a épousé. Le mariage en soi n'a pas duré très longtemps. Elle lui a offert une activité, c'est-à-dire qu'elle lui a fondé une maison de bottier, Netsch et Frater, très jolies chaussures, très raffinées, en cuir doré, pyrogravées, rehaussées d'émail, etc. Mais il semble que ça l'a pas trop passionné. Il y a eu très peu de production. Donc c'est une sorte comme ça de météorite dans la vie un peu rangée de Vionnet.
La liquidation de sa maison de couture en 1939, elle intervient, on a toujours l'impression qu'elle intervient de façon très brutale. Finalement non, en fait. En 1919, elle prend un bail de 20 ans. C'est tout.
Je suis une femme d'une extraordinaire vitalité. Je ne me suis jamais ennuyée une seule seconde. Je n'ai jamais envié quelqu'un ou quelque chose et je suis arrivée maintenant à une certaine tranquillité. Je n'ai pas osé révéler à papa l'importance de ma maison, J'avais peur de le voir arriver et faire en public un sermon sur les dangers de l'ambition. Je suis la meilleure couturière du monde. Et c'est le sentiment que j'en ai.
Elle guide la maison et donc elle refuse que la maison puisse exister sans elle. Qui est un acte très fort, mais que moi que je comprends parfaitement, qui est très cohérent avec elle. Ça va avec cette idée du vêtement qui est un vêtement d'auteur. C'est pas une marque. C'est pas une marque. C'est la création d'un auteur. Donc chaque vêtement Vionnet comporte sa signature, autographe, son empreinte digitale. On ne peut pas faire du Picasso sans Picasso. Donc c'est ça, et je crois que c'est quelque chose de très fort, de très entier et d'absolu. Et, ça c'est ma petite interprétation très personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut, je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, à une époque où plein de belles endormies de la couture sont réveillées par des entrepreneurs qui rachètent les noms, etc. Ça a été le cas de Vionnet. Vionnet, le nom a été acheté un moment par des entrepreneurs français qui l'ont fait un peu vivoter, surtout un petit peu valorisé pour pouvoir le vendre un peu plus cher à d'autres entrepreneurs. Donc, le nom Vionnet en tant que maison existe et ça n'a jamais marché. Même au moment où il y a eu des directeurs artistiques comme Sofia Kokosalaki ou Marco Dibé, donc des gens qui sont reconnus pour leur qualité, pour leur filiation avec Madeleine Vionnet, mais ça n'a jamais marché. Et je pense qu'il y a une raison. C'est que Madeleine Vionnet l'empêche. Madeleine Vionnet, de là où elle est, l'empêche.
On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son royaume c'est la rue de Rivoli, son destin c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite main, et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande, que de bouquets et de guirlandes a-t-elle semé sur nos chemins.
Madeleine Vionnet, toute une vie de haute couture. Un documentaire de Juliette Hiller et Marie Placé. Avec Lydia Kamitsis, historienne de la mode, Sophie Tircelin, historienne de la mode, Georges Vigarello, historien, Olivier Teskens, styliste, Sophie Lemayeux, historienne de la mode, Emmanuelle Garcin, restauratrice de matériaux textiles au Musée des Arts Décoratifs de Paris.
Elle oublie qu'elle a pleuré d'amour.
Avec Catherine Ferrand dans la voix de Madeleine Vionnet. Prise de son Lucien Lefebvre, Manon Houssin, Sylvain Latu. Mixage Éric Villenfin. Attaché de production Daphné Abgral. Coordination Christine Bernard. Remerciements à Jérômine Savignon.
Et voilà Mademoiselle de Paris.
Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur franceculture.fr, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Maude Jussaume. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.